Début 1865, des trombes d'eau s'abattirent pendant 2 semaines sur les terres entre les fleuves James et Appomattox. Les nuages de la couleur d'un vieux marteau en fer étaient accrochés si bas dans le ciel que John devait se retenir de tendre la main pour les empêcher de basculer et de se déverser sur lui. Il suivit les bruits de la bataille qui se déplaçait vers l'ouest, faisant halte juste après pour ramasser dans les champs couverts de boue tout ce qui avait de la valeur. Pendant 4 ans, il avait vendu des montres, des bagues et des boutons en métal à des prêteurs sur gage entre Petersburg et Winchester. Il arrachait les plombages en or sur les dents des cadavres. Les chaussures, il les vendait aux troupes qu'il croisait ou les troquait à des déserteurs aux pieds nus ensanglantés contre les derniers biens précieux qu'ils avaient emportés dans leur fuite. Après le siège de Petersburg l'été précédent, il avait vendu à un fabricant d'engrais de Fredericksburg une charte et d'os qu'il avait extrait d'un cratère. Le tas était si haut qu'il avait paru projeter une ombre de 100 mètres sous le soleil d'août. « Y a que des autres chevaux, hein, petit ?» avait dit l'homme qui payait. Et John avait répondu qu'il pensait qu'ils avaient été un jour des chevaux, mais que c'était plus que des os, et un os, c'était un os. Alors est-ce qu'il les voulait ou pas ?
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Bien loin des représentations romantiques qui en furent données par la littérature et l'histoire officielle, la guerre civile américaine ne fut pas du tout un affrontement entre gentlemen en gants blancs, mais une épouvantable boucherie. Et depuis, aucun autre conflit, ni en Europe ni ailleurs dans le monde, ne provoqua autant de morts américaines. 360 000 côté nordiste, 260 000 côté sudiste, entre 1861 et 1865, des chiffres sans doute sous-estimés. Présentés déjà comme la guerre du bien contre le mal esclavagiste, cet affrontement fratricide avait évidemment des causes économiques et politiques bien plus déterminantes, comme à chaque fois. Et aujourd'hui encore, cette déchirure originelle demeure comme une ombre portée dans les mémoires. Kevin Powers, né à Richmond, Virginie, en 1980, s'est, comme beaucoup de jeunes garçons, engagé après le 11 septembre. Il a combattu en Irak en 2004 et 2005. Son premier livre, Yellow Birds, consacré à cette expérience traumatisante, a connu un grand succès en France en 2013. Et voilà qu'il récidive avec L'écho du temps, traduit par Carole d'Ivoire, paru aux éditions Delcourt, un récit choral sur fond de guerre civile. Les voix de ces personnages, esclaves, propriétaires, militaires et pillards des deux camps, nous racontent ce que c'est que tenter de vivre quand la mort, glorieuse ou absurde, est devenue la norme. Un traumatisme qui se lit dans les paysages et imprègne encore les mémoires de leurs descendants lorsqu'en 1956, l'un d'eux tente de comprendre qui étaient l'homme et la femme qui l'ont fait naître au cœur de la bataille. Bonsoir, Kevin Powers.
Hi, how are you?
Vous avez publié un premier livre qui est paru en France en 2013 sur votre expérience de la guerre en Irak. Et voilà que le deuxième livre, au lieu de vous amener sur des rivages plus paisibles, vous recommencez avec la guerre civile. Comment, pourquoi est-ce que vous êtes à ce point persuadé qu'il faut écrire sans arrêt sur la guerre ? Encore et encore, jusqu'à cette guerre si lointaine. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, homme d'aujourd'hui ?
Well, I think writers are interested in the intensity of the human experience.
Je crois que les écrivains s'intéressent à l'intensité de l'expérience humaine. Cette intensité, on la vit plus que partout ailleurs, en situation de guerre, à mon avis. Et les conséquences, évidemment, perdurent dans le temps. Il y a un conflit qui a lieu, et 10, 20, voire 100 ans plus tard, sa présence, on la ressent encore, sur le plan politique, social et même émotionnel.
Vous, Kevin Powers, je le disais, vous êtes né à Richmond, en Virginie, donc vous êtes un gentleman du Sud. Comment avez-vous été informé de cette guerre ? Comment est-ce qu'on enseigne, dans le Sud profond des États-Unis, cette guerre dite de sécession ou guerre civile ? Qu'est-ce qu'on vous a appris et qu'est-ce que vous avez, vous, depuis, appris sur cette guerre ?
I mean, I'm old enough to have been introduced to
Moi, je suis suffisamment âgé pour avoir eu une éducation qui repose sur la méthodologie, pardon, la mythologie de la guerre de sécession. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. On enseigne la guerre de manière un petit peu plus factuelle, c'est plus réaliste. Et l'échec qu'a représenté cette guerre. Le but de la guerre de sécession, c'était d'amener l'égalité à l'ensemble du peuple américain, mais ça n'a pas été le cas. Mais moi, enfant dans les années 80, j'ai compris que c'était une sorte d'échec romantique. C'est ainsi que ça a été décrit dans le Sud, juste... jusqu'à récemment, je pense. Donc, moi, ma tâche d'écrivain consiste, entre autres, à regarder la façon dont ce fantasme perdure dans notre compréhension de la guerre de sécession. Et je crois que mon rôle, c'est de montrer la réalité des faits, pour autant que je puisse le faire.
Je vous entends dire échec romantique, Kevin Powers, et c'est vrai que c'est ainsi souvent qu'on nous présente, enfin, dans le sud des États-Unis, on présente cette guerre de sécession comme la fin d'un monde merveilleux, écrasé par le rouleau compresseur économique et militaire du Nord. Mais vous, vous venez d'écrire, avec l'écho du temps, un anti autant en emporte le vent. C'était pour vous important, justement, en tant qu'auteur américain du sud, de remettre les pendules à l'heure?
I think so, and in fact, it seems that's a
oui.
tradition of.
En quelque sorte, oui, et il semblerait que pas mal d'écrivains du Sud cherchent à remettre les pendules à l'heure et lutter contre le cette mythologie. Bon, alors, j'ai pas pleinement réussi dans cette entreprise, je dois l'avouer. Je dois continuer à essayer de présenter la gravité et la réalité de la situation. Et j'essaye d'atteindre le plus grand nombre de personnes, évidemment.
Je crois vous avoir entendu dire, Kevin Powers, que le point de départ de ce livre, il est parti d'à côté de chez vous, où une plantation, comme il y en a beaucoup dans le Sud, porte le nom d'un Français. Il y avait à cette époque-là beaucoup de descendants de colons venus de France, des Huguenots. Et à côté de chez vous, il y avait une plantation importante que vous transposez dans votre livre sous le nom de plantation Levallois. Mais au point de départ, il y a une histoire vraie.
Yes, it begins from a real story.
Oui,
of a
tout commence par un meurtre dans le cadre d'une plantation. C'est une histoire vraie. C'était à 100 mètres, 200 mètres de là où j'ai grandi. Et comme nous l'avons dit, moi j'ai grandi baigné dans cette mythologie. Et donc avec cette histoire-là, j'ai été d'autant plus fasciné en tant qu'enfant par l'histoire. Et donc ça a été une inspiration pour moi d'écrire ce livre, après avoir moi-même vécu la guerre. Donc de retour de la guerre, je me retrouve dans un contexte que je voulais dépeindre à la lumière des faits que j'ai appris. Donc j'ai voulu coucher sur le papier ma compréhension de l'histoire du lieu où j'ai grandi et la façon dont cela m'a forgé, de manière consciente ou inconsciente d'ailleurs. Donc je me suis senti une espèce d'obligation de réétudier ma conception du Sud en général et de la Virginie en particulier, voire de manière encore plus particulière le lieu où j'ai grandi.
Alors, il n'y a évidemment aucun romantisme patriotique dans votre livre, Kevin Powers. Il y a les récits crus et violents, des viols, des mutilations imposées aux esclaves, de ce que ça fait que de posséder pour un être humain d'autres êtres humains. On va écouter une première lecture de votre livre. C'est le récit que fait l'un des esclaves de cette propriété que vous décrivez comme la propriété Levallois. L'esclave raconte à son ami comment il a été mutilé par son ancien propriétaire.
Une nuit, ils partirent se promener et avant qu'ils s'éloignent trop, Nurse posa la main sur l'épaule de Rawls et l'arrêta. « Pourquoi boites-tu comme un chien entravé ?» Ils approchaient d'une clairière parsemée de cèdres qui descendait vers une mare et un ruisseau qui nourrissait le fleuve. Ils s'assirent dans un coin d'herbe rase et il ôta ses vieux mocassins. Nurse examina ses pieds. La lune était sortie, mais des nuages passaient devant, blanchissant les herbes dorées en dessinant les minces silhouettes des arbres. Rose n'avait plus de gros orteils. La plante de ses pieds, dure et calleuse, montait jusqu'aux cicatrices irrégulières qui avaient remplacé ses orteils. « Fugger, » dit-il. « Qui t'a fait ça ? Le vieux à qui on appartenait avant. « Tu as encore mal ?» Rawls siffla puis sourit. « Pas comme avant. Ça tiraille un peu quand je marche comme un dératé. C'est le vieux qui l'a fait lui-même. Il m'a surpris quand je filais en douce derrière la grande maison et il m'a envoyé valdinguer sur les fesses. Il m'a traîné jusqu'à la clôture, il m'a attaché par les pieds à la plus haute planche, m'a coincé les épaules et m'a filé un grand coup de hachette. » Nurse soupira en secouant la tête. « Après quoi tu courais ? À ton avis, je courais parce que je voulais me tirer. » Ils étaient restés assis en silence assez longtemps pour que les bruits familiers de la nuit reviennent. Le sifflement solennel de l'engoulevent, le cri d'un renard au loin, le monde peint en nuances de gris éclairé seulement par la réverbération. « Ça m'a fait un mal de chien sur le cou, » dit Rawls. « J'étais un si petit bonhomme, il n'a pas eu de mal à me soulever pour me suspendre par les pieds à la clôture. » Il m'a laissé comme ça, la tête en bas, jusqu'au lendemain.
Kevin Powers, j'ai lu dans les critiques aux États-Unis de votre livre que Philippe Meyer, qui est un écrivain que nous avions reçu ici, qui a écrit un livre formidable sur la conquête de l'Ouest, qui s'appelle Le Fils, et avait beaucoup aimé votre livre. Et en repensant au livre de Philippe Meyer, au vôtre, c'est-à-dire passer des massacres avec les Indiens, au massacre de la guerre civile, je me demande si, au fond, vous avez voulu l'un et l'autre écrire pour expliquer cette violence ininterrompue et ces guerres successives qui font l'histoire des États-Unis. Est-ce que c'est parce que les États-Unis se sont créés de cette manière-là, de massacre en massacre, qu'il y a encore autant de violence chez vous ?
Oui, je pense que ce que vous dites est juste. Dans ce livre, l'écho du temps, évidemment, la violence est particulière à l'histoire des États-Unis, mais c'est tout de même une caractéristique de la nature humaine, de l'humanité. Et moi, ce que j'ai voulu étudier, c'est l'existence perpétuelle et sans fin, ininterrompue, comme vous dites, de cette violence. Philippe Myers, lui, dépeint un certain nombre de scènes où il y a par exemple un Amérindien qui a un sentiment de bouclier et ça ramène aux guerres de l'Empire romain. Donc on se replonge en permanence dans le passé, du point de vue de la violence, bien sûr. Alors peut-être que la question que nous voulons tous les deux poser est, est-ce que ça va s'arrêter ?
Alors, ce livre, il vient après Yellow Birds, Kevin Powers, votre expérience de la guerre, bien sûr, mais du coup, le lecteur qui a lu Yellow Birds ne peut pas s'empêcher de lire ce livre-ci à travers votre propre expérience. Et à chaque personnage qui représente tantôt le Sud, tantôt le Nord, on en revient à cette guerre d'Irak ou à la présence américaine en Afghanistan, c'est-à-dire toujours cette façon qu'ont les militaires de présenter la guerre du bien contre le mal. Est-ce que, du coup, pour vous aussi, quand vous écriviez ce livre, il y avait en fait une métaphore des guerres actuelles ?
Mais toutes les guerres ont une caractéristique commune. Pour le soldat en train de se battre, il s'agit de battre les rivaux, c'est tout, les adversaires. Alors évidemment, le contexte politique et les idées, l'idéologie qui guident les conflits peuvent différer. Mais que ce soit il y a 100 ans, il y a 1000 ans, ou en Afghanistan, il y a quelques années, pour les soldats de part et d'autre, c'est une histoire de battre l'autre pour survivre. Et pour moi, il était très important de communiquer cet aspect-là de l'expérience du conflit, bien entendu, je veux m'intéresser au Sud au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle, dans la guerre de Sécession. Mais je veux décrire la peur intense qui noue le soldat. Mis à part la politique, le lecteur peut comprendre le contexte de cette expérience. Pour le soldat, à ce moment-là, le contexte politique, géopolitique, n'a plus aucune pertinence.
Alors, pour en revenir à ce qui je trouve être quand même une constante dans ce livre, c'est la figure du Nord qui représenterait le bien contre le Sud esclavagiste qui représente le mal. Vous apportez de sérieuses nuances, Kevin Powers, notamment à travers la description d'un jeune officier de l'armée Yankee, Tom Fitzgerald, qui se retrouve dans une situation où il va appliquer sa loi, ses ordres, le bien, le mal, la frontière est mince.
Ils avaient marché à travers le Sud pendant des semaines, détruisant tout ce qui pouvait être considéré comme un moyen de subsistance pour les rebelles. Lui-même avait abattu et massacré des dizaines de porcs, fait flamber des champs de tabac et des maisons, grandes et petites, pendu à la fois des confédérés et des unionistes déserteurs à la plus haute branche de l'arbre le plus proche, jusqu'à ce que toute la terre, des racines aux cimes, soit dévastée. Et puis, ils étaient arrivés sur ce qui semblait être une parcelle intacte, une maison se dressant encore avec grâce en haut d'une colline, une enfilade de linge soulevée par la brise, telle une myriade de drapeaux blancs. Les soldats, encore vaillants, se dirigèrent vers cette bâtisse comme vers un antiseptique. L'officier en charge garda les bras croisés avec une expression légèrement troublée quand des cris leur parvinrent de la maison. Une adolescente fut dénudée et pourchassée en sous-vêtements dans une grange où elle tint en joue ses attaquants à l'aide d'une fourche. Tom essaya de trouver un argument sur le bien et le mal en temps de guerre, capable de résister aux moqueries d'une cinquantaine d'hommes rendus fous par toutes ces années, où ils avaient vu leur sagacité et leurs réflexions rendues inutiles et donc bafouées, et statua ainsi. « Ceci n'est pas permis, monsieur. » L'officier se contenta de ricaner. « Allez, Fitzgerald, t'en profiteras toi aussi. » Tom, après avoir réfléchi un instant aux nuances des lois de la guerre, finit par déclarer « Très bien, dans ce cas. » Puis il posa une main sur la hanche de l'officier, lui prit son pistolet et lui tira une balle entre les deux yeux. Il dut ensuite abattre deux autres soldats déterminés à abuser de la fille. Quand tout se fut calmé, il déclara aux hommes qui formaient un cercle autour de lui comme une congrégation « Il y a ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. » Puis il fit un signe de la tête à l'adresse d'une dizaine d'autres qui attendaient sur le porche une torche à la main. « On a des ordres. Brûlez-la. Brûlez tout. » Quand ils quittèrent la ferme, elle était semblable à toutes celles qu'ils avaient vues jusqu'alors et qu'ils verraient encore, car ils avançaient telle une force de nivellement à travers le monde. Et les silhouettes, dans la pénombre qu'ils avaient laissée derrière eux, contemplaient bouche bée ce qui parfois passera pour de la justice sur cette terre, désormais pauvre et résigné à souffrir comme tout le monde.
Kevin Powers, dans cette page de votre livre, on voit ce jeune officier du Nord, Tom Fitzgerald, réfléchir aux lois de la guerre et se demander ce qui est juste et injuste, ce qui est bien et pas bien. Il empêche ses hommes de violer une jeune fille, mais il va brûler littéralement tout ce qui leur permettra ensuite de vivre. C'est, on ne peut pas s'empêcher de lire cette scène comme si elle datait d'hier sur les champs de bataille d'aujourd'hui.
Yes, I mean probably somewhere in the world something like that did happen.
Il est vraisemblablement qu'une scène comme si ait pu avoir lieu il y a quelques jours quelque part dans le monde. Mais la cause du Nord pouvait être juste, n'ayons pas de doute là-dessus. Mais pour accomplir la tâche, à mon avis, c'est qu'il faut convoquer l'insanité, il faut convoquer la folie. Il y a de la folie, même s'il y a de la justice, voire de la justesse. Il faut quand même manquer d'équilibre de santé mentale pour perpétrer des actes comme celui-là. Personne n'échappe à cette violence sans en être marqué, quelle que soit la cause et quelle que soit la justesse prétendue de la cause.
Vous-même, Kevin Powers, comment vous êtes-vous remis de ces scènes de violence auxquelles vous avez été mêlé après la guerre en Irak? Est-ce que ça a été compliqué?
Yes, I mean, I think ultimately, as the saying goes, time is the best healer of all wounds.
En fait, c'est le temps qui répare les cicatrices. Moi, j'essaye d'être très consciencieux dans mes rapports aux autres. Je ne suis pas au-dessus de qui que ce soit. Je ne me considère pas comme meilleur que quiconque. Mais cette expérience me permet d'agir à partir d'un certain déficit moral. Et peut-être qu'il faut que je regagne quelques galons de moralité. Donc l'expérience, il faut que je la remette en perspective, mais je ne me définis pas uniquement à l'aune de ce que j'ai vécu. J'ai un droit à l'avenir, comme tout le monde, et je sais que mon avenir dépend de mon comportement présent.
Hard times in every where you go. The times are harder than ever been before. You know that people they are drifting from door to door, but you can't find no heaven. I don't care where they go. These hard times gonna kill you. Just drive along slow.
Vagabonde sur France Inter.
Kevin Powers, dans votre livre L'écho du temps, il y a un personnage qui est un peu dissimulé dans l'histoire puisqu'il ne participe pas à la guerre civile. Il existe en 1956, vous donnez la date très précisément. Il s'appelle George Seldom. C'est un enfant qui a été trouvé à la fin de la guerre de sécession. Il ne sait pas qui il est, il ne sait pas d'où il vient. Et pendant un court chapitre, il va essayer de retrouver le lieu où on l'a élevé. Et le lecteur en sait beaucoup plus que lui. Pourquoi est-ce que ce personnage, dans votre récit, il était important qu'il soit présent alors qu'il est dans un temps bien postérieur à la guerre civile? Qu'est-ce qu'il représente pour vous, ce George Seldom?
Well, in many ways, his life demonstrates.
Eh bien, à bien des égards, la vie de George symbolise tout ce qui a changé depuis la fin de la guerre, et sa vie symbolise également tout ce qui n'a pas changé depuis la fin de la guerre. S'il avait été né 100 ans avant la guerre de sécession, ça aurait été intéressant de voir comment sa vie aurait pu évoluer, mis à part toutes les questions liées à la technologie, apparemment, évidemment. Pour moi, c'était important de montrer comment une seule vie d'un seul homme peut relier les Américains à leur histoire. Parce que l'histoire américaine est brève, donc la mémoire du peuple américain ne va pas si loin dans le temps. Et avec George, ce personnage, je peux montrer comment une vie peut être le trait d'union entre deux époques historiques.
Alors ce petit Georges, enfant, très petit enfant, est retrouvé dans votre livre à part un étonnant personnage qui s'appelle Edgar Seldom, qui va d'ailleurs donner son nom à cet enfant. Et ce personnage, vous le présentez comme une sorte de franc-tireur. Il fait partie au départ des armées confédérées dans le sud, mais il est en rébellion, il est considéré comme un hors contrôle, un terroriste de l'époque, et il est traqué par les militaires confédérés. Il finira d'ailleurs très mal. On va écouter la lecture d'une page de votre livre à propos de ce personnage.
Edgar ne voyait pas comment il pourrait finir autrement qu'une corde passée autour du cou. Même s'il n'était pas pressé que ce jour arrive, chaque fois qu'il mettait la main à sa poche pour relire la lettre qu'il avait reçue de sa jeune épouse avant la bataille à Cheddar Mountain, il ne trouvait aucune raison d'attendre. Une phrase ici ou là. On croit qu'on ne peut pas souffrir davantage et pourtant cela n'en finit jamais. Ils ont regroupé nos porcs sur leurs terres en nous traitant de voleurs. Les torches encerclent la maison la nuit. Très cher Edgar, la peur est devenue le principal attribut de nos vies. Il avait montré la lettre à son colonel, et après lui avoir servi quelques platitudes sur le sacrifice, ce dernier avait dit qu'on avait besoin d'Edgar au nom de l'intérêt commun et que s'il libérait tous les hommes qui se languissaient de leur famille, il ne resterait plus personne pour combattre les Yankees. Edgar lui avait répondu qu'il se fichait des Yankees puisque ce n'était pas eux qui faisaient souffrir sa femme. Ce à quoi l'officier avait rétorqué « Je vous conseille de ne rien faire d'inconsidéré. » Quand les combats débutèrent le lendemain, Edgar abattit la monture du colonel, prit sa couverture et une paire de pistolets le mat encore coincés sous la bête à l'agonie, puis quitta à pied la montagne, prêt à entamer son voyage de retour. Un mois plus tard, il arrivait devant la maison en cendres qui avait remplacé la sienne sur les bords de la Lumber River dans le comté de Robson. Les champs brûlés, les piquets formant l'enclos des cochons, arrachés et utilisés pour attiser l'incendie de la maison. Personne ne pouvait lui dire où sa femme était allée, ni si elle avait survécu. Seuls ses jeunes frères, à peine adolescents, et deux cousins eurent assez de courage pour aller lui parler malgré le silence tremblant qu'il projetait sur le monde. Ils lui racontèrent que les officiers conscrits avaient fait vivre un véritable enfer à tout le monde. On ne pouvait aider personne sous peine de se faire boucler pour complicité et assigner aux travaux forcés à Wilmington.
Kevin Powers, avec ce personnage que vous avez créé d'Edgar Seldom, en fait, vous abordez la question des métis dans le sud, des métis d'Indiens, en l'occurrence pour Edgar Seldom. C'est une tribu croatane, donc qui a été enrôlée par les armées confédérées. De même qu'il y a aussi des personnages qui sont des Melujon. Ce sont des métis, tous, qui ont été entraînés par le flot de l'histoire. Et vous en profitez pour en parler. Ce sont des choses qu'on ne connaît pas très bien sur la façon dont la population du Sud était composée à l'époque. C'est important pour vous de redonner voix à ces gens qui ont été embarqués dans la guerre alors qu'ils n'avaient rien à y faire.
Oui, c'est tout à fait cela. Je voulais montrer la complexité de la question identitaire, même à l'époque. Je voulais montrer l'arbitraire et l'absurdité qu'il y a à vouloir mettre des étiquettes sur les gens. Et ces personnages, en particulier celui d'Edgar, m'ont permis de poser la question suivante. Quel serait le sort d'une personne qui veut rejeter tout ce qui est lié à la guerre, tous les systèmes à l'œuvre? Qu'advient-il des statuts identitaires et sociaux qui le contraignent? Tout cela, évidemment, ça résonne avec les questions que je me pose sur la façon trop simpliste que l'on a à décrire une population. Et à mon avis, cela répond aussi à la question de la complexité de ces populations à l'époque. Et je voulais en effet donner une voix à ces personnages-là.
Il y a aussi une question en filigrane dans votre livre, Kevin Powers. C'est, au fond, la guerre civile marque le moment où vous commencez commence à disparaître les grands paysages des États-Unis. La conquête de l'Ouest a commencé à détruire les savanes, les grandes étendues de prairies où paissaient les bisons. Et là, avec la fin de la guerre, c'est l'industrialisation. Et d'ailleurs, votre personnage de George Seldom participe à la coupe des grandes forêts dans les marais. En fait, la guerre civile, non seulement elle laisse une cicatrice de haine et de violence aux États-Unis, mais c'est aussi le moment où on commence à entrer dans la période du désastre écologique.
Absolutely. For me, it's difficult to separate.
C'est tout à fait cela. En fait, c'est très difficile de distinguer la guerre de sécession de l'industrialisation, du début du capitalisme moderne, de notre isolement face à la nature. Donc tout ça, c'est lié dans mon esprit. La guerre, l'effet destructeur sur les paysages, par exemple, la capacité qu'a un des personnage à s'adapter au capitalisme moderne. J'ai voulu dépeindre cela plutôt que de voir les choses de manière très distincte. Ce n'est pas une époque distincte de la nôtre. En fait, c'est un continuum, tout cela. Tout est lié. Je vois la façon dont le passé est lié au présent. Et ça, j'essaye de le faire partager au lecteur.
Est-ce que votre prochain livre est en route, Kevin Powers, et est-ce que vous allez écrire sur autre chose que la guerre?
Well, I do sometimes wonder if violence is a subject that.
Parfois, je me demande si la violence, c'est un sujet que je vais traiter de manière récurrente. Mais à l'heure où je vous parle, je réfléchis aux conséquences des propos que je tiens dans ce livre aussi, la perte du monde naturel, la nostalgie du monde naturel perdu, c'est très important pour moi, la relation à la nature. Nous sommes tous confrontés à cette perte imminente. Donc, je viens de commencer à mettre au travail, mais je vais essayer de montrer comment les choses sont en train de disparaître dans la nature.
Eh bien, bon travail à vous, Kevin Powers. On attend avec impatience le suivant pour se revoir peut-être. En tout cas, je rappelle que celui-ci, L'écho du temps, traduit par Carole d'Ivoire, vient de paraître aux éditions Delcourt. Merci à vous d'être venu aujourd'hui.
Merci beaucoup. Thank you very much.
Et merci à Xavier Combe qui nous a permis, bien sûr, de nous comprendre ce
merci
soir.
Merci beaucoup. Thank you very much.
Retrouverons la semaine prochaine aux environs de 19h20 et bien sûr après les informations de 20h, vous avez rendez-vous avec Xavier Le Herpeur pour une heure en série. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter.